partir du moment où on déchoit de sa nationalité un binational, cela veut dire qu'on inscrit dans le droit le fait de tenir compte de l'origine de cette personne.
Les individus étant responsables de ce qu'ils font, s'ils se retournent contre la France, il est assez légitime, en effet, de les déchoir de la nationalité française, sauf à penser que cette nationalité n'est jamais rien d'autre qu'un coup de tampon.
Aujourd'hui, les nouveaux chemins vous emmènent et vous installent sur scène, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant un public de près de 1000 personnes qui s'est réuni samedi 30 janvier dernier pour écouter 5 débats réunissant à chaque fois 3 philosophes venus réfléchir ensemble aux enjeux philosophiques de l'année écoulée. Ces débats ont été préparés grâce à l'équipe des Nouveaux Chemins, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy et Marianne Chassor, orchestrés par l'équipe de communication de France Culture, réalisés par Midia Portiguerin, avec à la prise de son Christophe Michou, Christophe Goudin, Benjamin Perru et Mathieu Leroy. Ces débats ont été organisés en partenariat avec Philosophie Magazine. Nous avons donc le plaisir de vous proposer cette semaine la diffusion dans leur intégralité de ces émissions débats. Ainsi, lundi, vous avez pu entendre Magali Besson, Frédéric Worms et Alain Renaud réfléchir au rôle du philosophe dans les situations d'urgence entre nécessité du temps long et contrainte de l'événement. Hier, c'était la philosophe Cynthia Fleury, l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon et l'historien Olivier Dard qui se sont réunis pour réfléchir aux nouvelles problématiques liées à la représentation. Entre abstention et montée de l'extrême droite aux dernières élections, à partir d'une question, la démocratie nous représente-t-elle encore ? Demain, les philosophes Bruno Bernardi, Roselyne Lettron et Michael Fessel débattront autour d'une question qui a fait couler beaucoup d'encre l'an dernier : la sécurité est-elle la condition de la liberté ? Et vendredi, eh bien pour les chemins du vendredi, ce sera au tour de Régis Debray de vous proposer sa leçon de clôture, autour d'une actualité un peu particulière, celle de l'œuvre de Walter Benjamin. Mais vous l'entendez, le public s'impatiente. Il est temps de rejoindre le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour notre troisième débat qui réunit les philosophes Sophie Guérard de la Tour, Alain Finkielkraut et Thierry Loger, venus interroger les notions d'identité et de nationalité à partir d'une question : qu'est-ce qu'être français ? Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous laisse le temps de vous installer parce que je sais que la queue est longue dehors et que vous faites l'objet d'un tri très scrupuleux, d'une surveillance très précise. Donc vous allez continuer à arriver pendant que nous parlons. Donc ça me laisse le temps de présenter ce troisième débat pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Le troisième débat qu'on a choisi d'intituler « Qu'est-ce qu'être français ?» à partir, alors toujours suivant la règle du jeu de ce forum qui consiste à partir d'un événement qui aurait eu lieu au cours de l'année écoulée, cette fois-ci, alors événement, je ne sais pas, mais en tout cas, un fait d'actualité, c'est la question de la déchéance de la nationalité. Pour vous rappeler ce fait, justement, il y a eu le projet de loi annoncé le 16 novembre dernier par François Hollande, modifiant l'article 34 de la Constitution pour permettre la déchéance de nationalité de, je cite, « une personne née française qui détient une autre nationalité ». Je rappelle que le Code civil prévoit la déchéance de nationalité depuis 15 ans, mais ce projet de loi vise à l'étendre aux individus nés français, pas simplement ceux qui ont acquis la nationalité française après leur naissance. Ce qui implique donc une désignation des binationaux. Et c'est cela qui a créé la polémique au sein des élus de gauche, notamment, qui voient une rupture d'égalité entre les Français. Alors après 5 semaines de débat, le gouvernement a tranché en faveur de l'extension de la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français, mais le projet sera soumis à l'Assemblée nationale le 3 février prochain. Voilà pour l'enchaînement des faits qui justifie en partie l'interrogation qui est la nôtre aujourd'hui, puisque finalement, avec la question de la déchéance de la nationalité, se pose la question de savoir la valeur que l'on accorde à cette nationalité. En clair, est-ce que la nationalité française serait synonyme d'une, disons, d'une identité française ? Donc, interroger la distinction entre nationalité et identité. Et puis, si une nationalité peut être déchue, est-ce que ça veut dire que celle-ci serait un droit ou un privilège dont certaines personnes se verraient retirées, voilà, qui seraient retirées à certaines personnes ? Autant de questions qu'on va prendre le temps, pour le coup, de poser et de répondre de manière très diverse, je crois, grâce à nos trois invités donc ici présents. Tout au bout, tout à ma gauche, se trouve Thierry Loger, qui est maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'Université Paris-Sorbonne, auteur notamment, donc ici même, auteur de Figure du génie dans l'art français de 1802 à 1855, publié aux presses de l'Université Paris-Sorbonne, encore elle, cette année. À votre droite, Thierry Loger, se trouve Sophie Grard de la Tour, qui est maître de conférences en philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice adjointe des publications de la Sorbonne, auteur notamment du Multiculturalisme a-t-il un avenir ? Enfin, co-auteur, vous avez dirigé cet ouvrage, Sophie, et paru chez Hermann en 2013, ainsi que Vers la République des différences aux presses universitaires du Mirail. Et à ma gauche se trouve Alain Finkielkraut, philosophe Alain Finkielkraut, qui vient d'être reçu à l'Académie française, qui est venu sans son épée, malheureusement, à moins qu'elle soit dans son sac, on verra si vous avez passé les contrôles. Vous êtes l'auteur, notamment, en ce qui nous intéresse aujourd'hui, de L'identité malheureuse, qui est sorti l'an dernier chez Gallimard. Et Qu'est-ce que la France ? C'était sous votre direction également, c'était chez Gallimard toujours, en 2008. Voilà pour l'identité de mes invités. On va commencer avec vous, Sophie Guérard de la Tour. Je le disais, est-ce que lorsqu'une nationalité dite française, on va voir ce qu'on entend derrière ce terme français, peut-être déchue, est-ce que ça veut dire que celle-ci serait un droit ou davantage un privilège ?
Alors, la difficulté que pose ce projet de déchéance de la nationalité, c'est qu'il tend à entrer en tension avec un des principes fondamentaux de la République, qui est un des traits essentiels de l'identité française, à savoir l'égalité de tous devant la loi, hein, article fondamental, premier article de notre Constitution, sans distinction de race, de religion et d'origine. Or, à partir du moment où on déchoit de sa nationalité un binational, cela veut dire qu'on inscrit dans le droit le fait de tenir compte de l'origine de cette personne. Donc, il y a déjà ici un problème entre la manière dont les principes politiques de la République donnent sens à cette identité française et la manière dont on l'interprète vis-à-vis de ceux qui seraient suspects de ne pas être parfaitement à la hauteur de cet idéal politique. Première tension, et qui pose aussi, de manière peut-être plus générale, un problème relatif à la manière dont on pense la question de l'identité en rapport à l'intégration. C'est-à-dire qu'être français, c'est avoir intégré en soi, intériorisé une identité qui est bien évidemment individuelle, mais qui correspond aussi à un cadre collectif, une identité collective. Et de plus en plus dans les débats politiques, dans les débats publics, ces questions d'intégration sont envisagées sous un angle individuel, moral, sous un angle, on pourrait dire, quasiment kantien. Il faudrait faire preuve d'une bonne volonté d'intégration. Il faudrait mériter, en fonction de la qualité de ses intentions morales, cette intégration. Or, il me semble qu'envisager l'intégration et l'intériorisation d'une identité de la sorte est tout à fait décalé par rapport à ce que l'on apprend de la réalité d'une intégration nationale lorsqu'on regarde les travaux historiques, les travaux sociologiques sur l'émergence des nations contemporaines, le moment où, sur un territoire donné, l'ensemble des personnes disposant d'un statut juridique à la base, celui de citoyen français, commence à s'identifier personnellement à ce statut, à cette identité française, alors qu'auparavant, ils se voyaient plutôt bretons, berrichons, corses. Qu'est-ce qui a fait, à quel moment les Français ont commencé à se sentir plus français que bretons, corses ou berrichons ? Et on se rend compte, à la lecture des travaux historiques et sociologiques sur cette question, que c'est assez récent. Être français, c'est une réalité qui s'est sociologiquement généralisée de manière assez récente. Nous, en ce qui nous concerne, parce que ce mouvement de nationalisation du lien social, il concerne toutes les démocraties nationales modernes, mais pour la France, c'est essentiellement sous la Troisième République que ça s'est fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, émerge une culture nationale particulière, mais qui est une culture d'un nouveau type, dont on pourra parler plus avant, mais j'en dis juste quelques mots, qui est une culture politique et juridique essentiellement, bien plus qu'une culture qui serait liée à des racines, à un terroir, à un enracinement dans des choses qui auraient précédé cet idéal de l'égalité politique. Donc être français, je pense qu'il faut revenir sur cette corrélation très étroite entre du politique, des principes universels, les principes républicains, et de l'éthique, le fait que nous formons un nous, une histoire commune attachée à ces principes, mais cette culture politique nous engage à avoir un certain contenu qui est en accord avec nos principes politiques, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsqu'on va penser l'intégration en réinvestissant des thèmes comme l'enracinement, le fait d'hériter de quelque chose qui serait à la limite préalable à ce moment de l'égalité politique.
Alain Finkielkraut, est-ce que vous rejoignez Sophie Gérard de Latour sur cet entrecroisement entre une perspective politique et éthique sur la notion de l'identité française ?
Non, je ne crois pas être tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre.
Le débat commence.
La question qu'est-ce qu'être français s'est posée en France dans un moment particulier de son histoire, au lendemain de la guerre de 1870. La France avait perdu l'Alsace et la Lorraine, et les Allemands disaient, les Alsaciens et les Lorrains sont allemands, qu'ils le veuillent ou non, en vertu de leur race, de leur culture. Et à ce moment-là, des savants français ont essayé de leur répondre. Deux noms se détachent, Ernest Renan et Fustel de Coulanges. Il y a une conférence célèbre de Renan de 1882 au Collège de France, je crois, à laquelle il est souvent fait référence. Il dit oui, bien sûr, la nation repose sur un passé. Un passé, un héritage de gloire et de regrets, des mœurs, une histoire, mais elle se résume dans le présent, dit-il, par un fait tangible, le désir de continuer la vie commune. D'où cette expression, la nation est un plébiscite de tous les jours. Fustel de Coulanges, répondant aussi à Mommsen et d'autres savants allemands qui voulaient en quelque sorte s'approprier les Alsaciens et les Lorrains, en dépit de leur désir, disait « la patrie c'est ce qu'on aime ». Et c'est une communauté de destin, de sentiments, d'intérêts, d'affection. Communauté d'affection, d'ailleurs, c'est l'expression utilisée aussi par Saint-Just, je crois, pendant la Révolution française. Or, que s'est-il passé au lendemain du 13 novembre ? Des gens qui croyaient avoir dépassé le stade national, qui vivaient de plein pied dans le monde, croyaient composer la première société civile mondiale, se sont rendus compte, c'était la génération Bataclan, avec ce qui s'était passé, oui, que la France était quelque chose, que la France représentait pour eux une réalité, redevenait une patrie aimée, sous les coups d'un ennemi redoutable. Et à ce moment-là, ils ont redécouvert la Marseillaise qu'ils ont entonnée ou qu'ils ont écoutée avec émotion lors de la cérémonie des Invalides, et le drapeau tricolore aussi, dont il pouvait, 68 heures ou pas 68 heures, avoir tendance à se moquer. La France redevenait une expérience partagée. Et c'est dans ce contexte qu'a surgi le débat sur la déchéance de nationalité. Et en effet, une partie de la gauche s'est insurgée contre une mesure qu'elle jugeait inégalitaire, une mesure qui, encore une fois, ne vise pas les binationaux, mais les binationaux convaincus de terrorisme, ce qui fait quand même, c'est même pas une minorité, c'est un tout petit groupe. Mais une grande partie de l'opinion, même de gauche, est restée insensible à cette critique, parce que il y avait quelque chose d'incongru à vouloir à la fois la nation et une haine de la nation qui pouvait aller jusqu'à prendre les armes contre n'importe quel citoyen de cette nation. C'était une version paroxystique du beurre et de l'argent du beurre qui heurtait le sens commun et la décence commune. Si vous voulez, le raciste, c'est celui qui veut refuser la nationalité française à des étrangers qui expriment le désir de l'avoir, parce que, dit-il, ils ne peuvent pas être français. Le républicain, c'est celui qui prend acte de la volonté de chacun, qui affirme la préséance de la volonté, comme Renan, sur la fatalité et sur toute forme d'automaticité, et qui donc dit, ben voilà, les individus étant responsables de ce qu'ils font, s'ils se retournent contre la France et qu'ils ont un deuxième passeport, il est assez légitime, en effet, de les déchoir de la nationalité française, sauf à penser que cette nationalité n'est jamais rien d'autre qu'un coup de tampon ou une réalité purement administrative. Et cela, on a du mal à le penser aujourd'hui dans un contexte où la France rencontre des ennemis qui veulent sa mort. Dernier point sur lequel je voudrais intervenir, on a dit que cette mesure mettait en cause le grand principe républicain du droit du sol. Le droit du sol n'a pas été introduit en France pour des raisons de principe, mais pour des raisons d'opportunité. Il s'agissait de répondre aux exigences de la conscription. Voilà. Napoléon Bonaparte était un partisan résolu du droit du sol parce qu'il avait besoin de chair à canon. Donc voilà, je ne vois pas en quoi cette déchéance de la nationalité heurte les grands principes. Je ne vois pas en quoi elle crée une inégalité, car il y a de toute évidence une différence, donc une inégalité entre ceux qui n'ont qu'un passeport et ceux qui en ont deux. Et je crois simplement que la nationalité française doit continuer à signifier quelque chose. C'est cela que veulent dire les gens qui sont favorables à une telle mesure.
Voilà, la question étant de savoir effectivement ce que veut dire être français, ce que la valeur dont on investit la notion même d'identité française. Et là, je me tourne vers vous, Thierry Leger, l'historien de l'art que vous êtes, peut apporter un élément très important à cette discussion, au-delà des enjeux proprement politiques. La construction d'une identité française, à travers notamment la question de l'intégration telle qu'elle a été abordée rapidement, ne peut pas se faire sans une référence culturelle, et notamment, disons, celle d'une image même, de la représentation dans l'image, ce qu'est être français.
Oui, alors, avant, permettez-moi de revenir sur un point pour répondre à M. Finkielkraut en particulier. Vous parliez de 1870 comme point de départ sur véritablement cette notion d'être français. Je pense qu'il faut également remonter un petit peu en amont, en particulier avec les expositions universelles, où là, véritablement, sous Napoléon III, on va également réfléchir à ce qu'est une école artistique française. Et cette école artistique française, si aujourd'hui c'est une notion qu'on emploie très généralement dans les musées pour catégoriser les sections tout simplement d'un musée, en 1855, c'est un tout autre propos, c'est un propos politique. Il s'agit véritablement de décider de mener un combat, et de mener un combat culturel. Et lorsqu'on va se lancer dans cette notion d'identité culturelle française, on va chercher à montrer à l'ensemble du reste du monde, alors sélectionné, en étant le pays accueillant à Paris en 1855 de l'exposition universelle, combien la France est le nouveau berceau d'une civilisation en avance. C'est vraiment le propos et le projet de Napoléon III, et il s'agit véritablement de partager le territoire. Et c'est ici qu'un pavillon est construit pour les arts, véritablement. Le pavillon est partagé entre les différents pays qui ont chacun leur commissariat pour montrer l'étendue par une rétrospective de l'art de la première moitié du 19e siècle français, où il s'agit de créer un champ de bataille, en quelque sorte, mais un champ de bataille absolument, on va dire, avantageux pour la France, puisque les trois quarts de l'espace sont occupés par la France, et que l'on va trouver des minuscules petites sections pour les autres pays. Et, sans surprise, puisque plus de la moitié des œuvres sont françaises, les commentaires français vont se vouloir nationalistes. Et je pense que ce terme de nationalisme doit être soulevé ici, puisque nationalisme, dans le Larousse du XIXe siècle, c'est très clair comme définition. On nous dit, c'est une préférence exclusive et presque aveugle pour ce qui appartient à sa nation. Et il s'agit véritablement de ce qui est mis en œuvre dans cette exposition universelle. Donc je pense qu'en 1855, il y a cette volonté de construire aussi l'idée d'être français par la culture et par les projets, en tout cas industriels. Mais ça va au-delà, et vous parliez de la région à l'instant, et ce point pour moi est absolument essentiel. Je renvoie aux travaux de Michael Votero, qui a écrit une thèse sur la peinture de genre sous le Second Empire, qui a travaillé sur la circulation des identités régionales à travers la peinture. C'est un projet assez fou, toujours de l'administration des Beaux-Arts de Napoléon III, où il s'agissait de commander, par exemple, des tableaux représentant des Bretons à des artistes bretons. Non pas pour mettre en avant une particularité régionale, mais pour, au contraire, montrer les diversités qui composent la France. Puisque ces tableaux, réalisés par des Bretons sur des Bretons, étaient envoyés, par exemple, à Nice. Et l'administration des Beaux-Arts de Napoléon III a fait ça pour toutes les régions, pour non pas nier les particularités des régions, mais créer un peuple français fait de diversité. Et c'est vraiment un point qui me semble important à soulever ici, c'est que dans l'idée même de créer un peuple français, on s'est basé sur les diversités. On ne les a pas niées, au contraire, on les a diffusées.
Sophie Guérard de La Tour.
Alors, pour rebondir sur les deux interventions précédentes, je dirais que l'être français a été abordé par le haut. Monsieur Finkielkraut nous a parlé de deux grandes figures politiques et intellectuelles de l'époque, Renan et Fustel de Coulanges. Et vous nous avez parlé, Thierry Loger, de Napoléon et de ce processus de construction culturelle mené par des élites politiques, esthétiques. Mais être français suppose aussi qu'on se pose la question des termes sociologiques. À partir de quand des individus finissent par se sentir dans leur ensemble? Je parle de tous les Français ordinaires et pas uniquement des élites. Bien sûr que la France existe depuis très longtemps, bien sûr que la réalité politique et culturelle de la France est une histoire séculaire. Mais les travaux historiques sur la construction nationale, le processus de construction nationale qui se sont développés vers la fin des années 80, ont montré que ce sentiment d'appartenir à une nation est vraiment lié à un processus assez récent, vers la fin du 19e siècle essentiellement, où là, sociologiquement, le lien social se nationalise. Et à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est que la culture qui fait que les gens vont se sentir liés est corrélatif à un nouveau mode de solidarité qu'a théorisé Émile Durkheim, donc un des pères fondateurs de la sociologie, qui a montré que dans les sociétés modernes, la solidarité entre les gens ne disparaît pas, malgré les progrès de l'individualisme, elle change juste de nature. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire aux solidarités ancestrales, traditionnelles, celles des communautés rurales villageoises, qui étaient fondées sur ce que Durkheim appelle des similitudes, les mêmes ancêtres, les mêmes traditions. On passe dans les sociétés modernes où la division du travail se progresse, les fonctions sociales se spécialisent. On passe à une solidarité qu'il appelle organique, c'est-à-dire où les individus sont sommés de devenir de plus en plus différents parce que la spécialisation des fonctions sociales les oblige à l'être. Et où la solidarité ne va plus reposer sur les réseaux locaux, mais au contraire sur cette nouvelle instance qui est l'État, qui va devenir, comme le dit Durkheim, le ministre du culte de l'individu, parce qu'il faudra protéger les individus, leur capacité à s'émanciper des anciennes tutelles, en leur accordant des droits. Et donc c'est là qu'une nouvelle forme de solidarité émerge, une solidarité fondée sur le partage des mêmes droits politiques, civils, politiques et sociaux, surtout. Hein, l'historien de l'immigration Gérard Noriel a bien montré que ce qui a intégré les classes populaires au régime républicain sous la Troisième, c'était essentiellement le passage d'une république bourgeoise à une république sociale où d'un seul coup, ça fait sens d'être français parce que l'État vous protège. Vous protège du chômage, vous protège de la maladie, vous protège de la vieillesse. Donc c'est un nouveau système de solidarité qui fait que progressivement, sans nécessairement qu'on s'en rende compte, parce qu'on parle d'identité, mais l'identité renvoie aussi à des aspects culturels qui ne sont pas nécessairement conscients, progressivement, les gens intériorisent cette nouvelle identité collective qu'est l'identité nationale.
Est-ce que ça veut dire que l'identité nationale française, selon vous, est davantage affaire de liens culturels, juridiques, culturels et juridiques, que davantage qu'elle ne relèverait d'un passé, d'une histoire, d'une mémoire collective?
Alors, bien évidemment, l'émergence d'une nouvelle forme de solidarité n'évacue pas la question de la mémoire collective, c'est juste que celle-ci va changer de fonctionnement, c'est-à-dire que la mémoire, d'un seul coup, sera en partie produite, comme ça a été très bien montré, par les instances centrales, par l'État, et progressivement, c'est par l'école, c'est par les commémorations officielles, c'est par tout ce que la sphère publique met en œuvre qu'un nouveau symbolisme social commence à être partagé par les Français. Et là, la question qui se pose sur le rapport à la diversité, ce qui est très intéressant, c'est qu'on observe sous la Troisième République un moment d'assimilation culturelle très fort qu'on a observé avec l'homogénéisation linguistique du pays. C'est l'époque où les instituteurs de la Troisième luttent contre l'usage des patois afin que les jeunes Français commencent à parler un langage commun pour être citoyens d'une même communauté. Mais en même temps, au moment où on lamine les langues régionales, on commence à chanter la valeur, à faire l'éloge de la diversité des terroirs, qui sont en fait folklorisés et qui sont utilisés politiquement pour justement tenter de montrer cette image de la France qui arrive à tenir en son sein cette diversité de culture. Donc c'est intéressant ce double mouvement assimilation-reconnaissance de la diversité, dans la mesure où ce qu'on voit, c'est que l'État central décide un petit peu de la place à donner dans ce symbolisme national aux différentes cultures. Et la question qui se pose maintenant, quand on observe la diversité qui n'a cessé d'augmenter de la population française, le fait que l'immigration ait contribué à cette diversité, une immigration qui d'abord est européenne, qui ensuite est postcoloniale, que devient justement la symbolique sociale nationale face à cette diversité? Est-ce que cette diversité apparaît autant que les terroirs français ont réussi à l'être? Est-ce que la diversité postcoloniale, est-ce que la diversité de l'immigration apparaît autant que les terroirs ont réussi à apparaître dans l'imaginaire national? C'est une question que je soulève.
Alain Finkielkraut.
Je ne répondrai pas directement à la question qui vient d'être posée, mais je vais peut-être tâcher, à ce stade du débat, d'apporter une contribution personnelle. du moins de parler de la France à la première personne. J'ai longtemps vécu sans penser à la France. Et j'ose parler de moi parce que je ne suis pas le seul. Je crois que mon évolution est symptomatique. Et je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, France Culture aurait organisé un débat sur le thème « Qu'est-ce qu'être français ?». Jusqu'à une date relativement récente, la France était pour moi un passeport et non un objet de réflexion. Et voilà, j'ai cheminé, si vous voulez, de la carte d'identité à l'identité. Mais au départ, c'était une carte d'identité avant que je découvre que c'était aussi une identité, la France. J'étais certes passionné, adolescent et jeune homme, par la politique française, mais en tant qu'elle était politique, pas en tant qu'elle était française. J'étais un fantassin anonyme des bataillons de 68, mais je me battais contre le système et je scandais des slogans révolutionnaires. J'avais l'espoir de participer à l'histoire universelle. Bref, ce sont des concepts qui me faisaient vibrer et il n'y avait pas, dans le monde où j'évoluais, il n'y avait pas de place pour les noms de pays. Et avec le combat des dissidents dans les années 70, puis celui de Solidarność en Pologne, bien d'autres concepts ont surgi. L'idée révolutionnaire a pris un coup fatal, et ceux qu'on a appelés les nouveaux philosophes ont érigé face au totalitarisme la démocratie en valeur suprême. Alors il est vrai que je n'étais pas tout à fait un nouveau philosophe, et ce qui m'a tenu un peu à l'écart de ce mouvement, c'est un article de Milan Kundera, publié en 1983 dans la revue Le Débat, « Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale ». En 1956, au mois de septembre, le directeur de l'agence de presse de Hongrie, quelques minutes avant que son bureau fût écrasé par l'artillerie, envoya par Telex dans le monde entier un message désespéré sur l'offensive russe déclenchée le matin contre Budapest. La dépêche finit par ces mots « Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe ». Alors tout d'un coup, de noms géographiques, de noms propres surgissaient dans mon univers saturé de politique, la Hongrie et l'Europe, et, disait Kundera, c'était le véritable enjeu de la révolte de Budapest. Certes, il y avait le combat de la démocratie contre le totalitarisme, mais il y avait aussi ce que personne ne voulait voir à l'époque, quelque chose comme un choc de civilisation entre la Russie et l'Europe centrale. Ainsi me suis-je rendu compte que l'Europe n'était pas simplement une construction un peu fastidieuse, un peu lointaine, même si elle avait des côtés admirables, mais c'était aussi une civilisation. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais européen et que la dimension nationale de l'existence pouvait être réévaluée. Ce n'est pas le moment exact où j'ai pris conscience que j'étais français, mais quelque chose commençait. La prise de conscience de mon appartenance à la France est venue plus tard, à partir du débat sur la laïcité. 1989, collège de Creil, des jeunes filles qui étaient autorisées à porter le voile dans la cour du collège ont voulu forcer le règlement et le porter en classe. Elles ont été exclues quelques jours, ça a fait une histoire. J'ai signé avec Régis Debray, Elisabeth Mandataire, Catherine Kinsler et Elisabeth de Fontenay un manifeste de soutien au principal de Creil. La nouvelle querelle de laïcité a été lancée à ce moment-là. Là encore, je croyais défendre un concept universel, la laïcité. Sauf que je me suis rendu compte, dans les années et les décennies qui ont suivi, que les lois françaises d'interdiction des signes religieux à l'école, puis d'interdiction du voile intégral dans l'espace public, étaient très mal vues dans le reste des pays occidentaux, laïcs aussi. Loi traitée de liberticide. Et je me suis rendu compte que ça avait à voir avec une certaine tradition française de présence heureuse du féminin. C'est au XVIIIe siècle que David Hume définissait la France comme la patrie des femmes. Donc j'ai été ramené, à travers la querelle de la laïcité, à une des composantes de l'identité française, la France comme patrie féminine. Et puis, je suis à l'origine, et je l'ai été quelques années, professeur de français.
Et en même temps, je ne faisais aucun lien entre le fait d'être prof de français et le fait d'être français. J'enseignais la littérature. Et puis, j'ai quand même vu ce qui se passait à l'école, c'est-à-dire la part de plus en plus réduite prise par l'enseignement de la langue et de la littérature au collège et au lycée. Je me suis rendu compte, à travers toutes les réformes, que la littérature était plus ou moins chassée de l'enseignement scolaire pour des raisons qui tenaient à une certaine pratique de l'égalité. Les sociologues ou des sociologues nous ont appris que les enfants des classes favorisées avaient accès par droit de naissance au grand héritage culturel. On a procédé à l'ablation de cet héritage pour que tout le monde parte à égalité. Et maintenant, dans les programmes de français du collège, quand on parle du français lui-même, on dit qu'il s'agit, à travers son enseignement, de participer à la société, d'inventer des mondes, d'habiter le monde. On ne dit plus jamais qu'il s'agit de se cultiver par la littérature. Or, c'est là, encore une fois, que je suis moi-même redevenu français, car je me suis rendu compte, au moment de cette éclipse, que, et un certain nombre d'essayistes l'ont souligné très longtemps, que la France, patrie féminine, était aussi une patrie littéraire. Je terminerai par cette citation de Simone Veil, la philosophe. « On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue au loin dans le temps et dans l'espace, ou bien on peut l'aimer comme une chose qui étant terrestre peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. » C'est comme cela que, en effet, j'aime la France, parce qu'elle est devenue, à mes yeux, une petite nation au sens que Kundera, dans cet article si important pour moi, donnait à ce terme.
Est-ce que votre approche... Ce que votre approche permet de penser, Alain Finkielkraut, en ce qui concerne la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est ce qu'on pointait au début, justement, de ce débat, à savoir qu'on ne peut y répondre qu'en faisant référence à une forme de vécu, d'expérience. C'est aussi une question personnelle, la question de savoir ce qu'est une identité française. Ce n'est pas simplement une question de principe et de définition abstraite. Il y a forcément une partie du vécu, de l'expérience intime qui est engagée lorsqu'on répond à cette question. Thierry Loger.
Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec justement cette idée du vécu qui est intime pour définir sa capacité à être français. Et c'est, je pense, la même chose pour ce qui est de dire qu'est-ce qu'une culture française. Puisque c'est un propos qui revient souvent, c'est qu'être français serait partager la même histoire et la même culture. C'est, selon moi, une ineptie, puisque partager une même culture et être français, c'est déjà un problème, puisque cela supposerait que tout individu a connu la même culture et véritablement que tout individu partagerait les mêmes, en tout cas, histoires au pluriel. Ce n'est pas le cas, et justement c'est peut-être le privilège d'être à la fois chercheur et enseignant, c'est de voir justement dans des amphithéâtres comme ceux-ci dans lesquels nos enseignements se déroulent, cette multiplicité aussi des personnes que nous avons devant les yeux et des histoires familiales et personnelles pour lesquelles, je dois l'avouer, nous avons parfois un peu de mal à décrire qu'est-ce que pourrait être une culture française. C'est, selon moi, une grande difficulté, mais parler à l'ensemble d'un auditoire français et chercher à intégrer l'histoire de l'art, justement, comme une culture commune, c'est un grand défi et je trouve que ce défi est véritablement important à relever. Vous parliez à l'instant l'importance d'être professeur de français. Je dirais la même chose pour être professeur d'histoire de l'art, puisque je dis bien souvent que face aux étudiants, j'ai appris moi-même ce que pouvait être une histoire de l'art pour des jeunes français actuels. Et il est évident qu'il serait absolument fou de ne pas intégrer, par exemple, l'histoire coloniale pour parler d'un passé commun à l'ensemble des étudiants auxquels nous avons à donner cours. Et bien évidemment, pour les jeunes issus de l'immigration, comme ceux qui ne le sont pas, ceci fait partie aussi d'une histoire commune, mais plus récente. Et pour ces raisons, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de donner des cours, par exemple, sur l'orientalisme. Il me semble essentiel d'intégrer une histoire politique pour apprendre le beau aussi de l'orientalisme au XIXe siècle. Pour vous donner un cas qui me tient à cœur tout particulièrement, je fais souvent cette comparaison avec ce qui se passe au Portugal. Le Portugal a un passé de métissage culturel très important et il suffit de se rendre dans les musées d'arts anciens pour voir même les dénominations qu'ils peuvent donner à leur art national. On parle par exemple pour l'art qui est issu de traditions indiennes et portugaises d'art indo-portugais, pour d'art issu de motifs chinois mêlés à des traditions portugaises d'art sino-portugais, et en France pour mêler des motifs algériens, marocains à une traduction picturale française, on parle d'orientalisme. Il semble qu'on ne serait pas capable d'assumer que oui, il y a des jeunes, en effet, qui ont peut-être deux passeports, mais je pense que nous avons aussi des œuvres d'art qui ont deux passeports, c'est-à-dire qui sont issues d'échanges culturels extrêmement importants. Et selon moi, oui, les femmes d'Alger dans leur appartement, par exemple, de Delacroix, c'est de l'art tunisien et français ou franco-tunisien, et je préfère l'aborder de cette manière puisque sans la politique coloniale cette œuvre n'existe pas, et sans l'histoire de l'art français elle n'existe pas, et c'est de cette manière que je pense que l'identité culturelle d'une toile telle que celle-ci transmise aux étudiants français est nécessairement politique. C'est vraiment un point que je souhaitais amener ici.
Reste à savoir si une œuvre d'art binationale pourrait être déchue de sa nationalité.
C'est voilà, exactement.
Sophie Gérard de la Tour, est-ce qu'il faut en conclure, après ce que vient de dire Alain Finkielkraut puis Thierry Loger, que l'un par la référence à son histoire personnelle et l'autre à l'instant Thierry Loger par le constat qu'il est très difficile de nommer ce qu'est une culture française, eh bien, peut-être que c'est le sens même de l'identité française ou identité culturelle française qui pose problème. Peut-être qu'il n'y a pas une définition unifiée à proposer. Mais alors, que mettons derrière ce terme même de français? Quand on dit qu'est-ce qu'être français, il faut bien qu'il y ait des référents communs, sinon le terme n'a plus de sens.
Alors, ce qui me semble important, c'est de ne pas mettre en opposition le vécu, l'expérience personnelle et la dimension politique de l'identité nationale. Nous sommes traversés par cette identité collective qui a des origines, comme je l'ai dit, politiques et juridiques. Elle nous touche dans notre vécu, donc c'est quelque chose, je veux dire, le simple fait, je parlais de la langue, de l'homogénéisation linguistique de la France tout à l'heure, nous pensons dans notre tête en français, donc l'identité nationale française nous traverse intimement.
Par la langue, du
coup. Par la langue, déjà. Alors, pas nécessairement la langue de la haute culture, parce que tout le monde n'a pas eu accès à la haute littérature, et pourtant, beaucoup de gens parlent français, pas forcément un très bon français, c'est pour ça que c'est parfois assez amusant quand on entend parler des tests de citoyenneté qui essaye de mesurer le mérite que vous auriez à être naturalisé ou devenir français en vous faisant faire un test linguistique. C'est amusant, sachant que beaucoup de Français échoueraient sans doute à ce test linguistique aussi. Donc bon, on peut se poser la question là de la justice, encore une fois, dans ce deux poids, deux mesures. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas à faire cette fausse opposition entre le vécu et l'identité politique. Plutôt se poser la question justement de ceux qui, parce que leur parcours personnel n'est pas nécessairement représenté dans la symbolique nationale, ont peine à trouver leur place dans cette identité française. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une situation, on pourrait reprendre l'expression de Julius Du Bois, qui avait travaillé sur le cas des Afro-Américains et qui utilisait cette expression de « moi clivé » pour définir leur perception identitaire. Ils sont clivés parce qu'ils se sentent à la fois américains, mais à la fois ils se sentent bien qu'en tant qu'Afro-Américains, ils ne sont pas des Américains comme les autres. Et il me semble que ça peut être la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de personnes minoritaires en France, dans la mesure où la symbolique nationale reste quand même partiale, exclusive. L'historien Gérard Noriel a parlé de non-lieu de mémoire pour l'immigration en France, en montrant que nous n'avions pas, comme dans d'autres grands pays d'immigration, de lieu de mémoire pour honorer ce passé-là, pour honorer tout l'apport économique, démographique, culturel, humain que l'immigration a apporté à la France, et que nous restons dans cette idée que la France existait avant que l'immigration arrive en masse, alors que nous sommes de fait un grand pays d'immigration. Nous sommes restés dans cette idée que les immigrés se sont fondus dans le creuset français sans substantiellement nécessairement le transformer. Donc, Pour toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans cet imaginaire national, il y a un problème de clivage identitaire, du fait qu'on est français, on peut se sentir français, mais on peut sentir aussi, dans le regard d'une certaine majorité, que l'on n'est pas complètement français. C'est ce qu'a bien mis en évidence les enquêtes de l'INED, de Trajectoire et Origine, qui montrent que beaucoup de Français qui font partie de ce qu'on appelle les minorités visibles, ne se sentent pas reconnus comme français, et que ça pose un réel problème de décalage entre leur identité personnelle et l'identité sociale.
Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir reconnu comme français? Qu'est-ce qu'on y met dans cette affirmation-là, ce constat?
Qu'on vous traite à égalité et qu'on vous considère...
C'est la notion d'égalité, français. C'est qu'on se sent pas à égalité, mais quoi, juridique? Culturel, comment on définit?
Je veux dire, être français, c'est être républicain, c'est donc être attaché à cette valeur de l'égalité, au fait que, pour les républicains, il y a vraiment cette idée que c'est important pour nos relations politiques, les Républicains ont cette vision intersubjective de la relation politique, selon laquelle nous devons pouvoir regarder l'autre en face sans nous soumettre à sa volonté. C'est une idée que nous héritons de Rousseau, cette idée que vraiment nous devons pouvoir être à égalité. À partir du moment où vous avez des symboles, des normes culturelles qui font que certaines personnes sont considérées comme des citoyens de seconde classe, parce qu'ils ne sont pas pleinement français, une norme culturelle très largement répandue en France et considère que les personnes de couleur ne sont pas pleinement françaises. Alors évidemment, quand quelqu'un comme Nadine Morano le dit haut et fort, ça fait hurler tout le monde, mais si vous creusez un peu, beaucoup de gens auront cette idée que dans un quartier, si de plus en plus de personnes de couleur s'installent, ils ne se sentent plus chez eux. Quand on dit ça, c'est qu'on a intériorisé une norme de francité qui est associée à l'idée de blancheur, et ce qui est absolument contraire. Donc ça, c'est lié à des normes culturelles.
Je vois votre voisin de droite secouer la tête.
Tout à fait, mais je veux dire, l'idée que je veux faire passer, c'est que si l'identité nationale est une identité à la fois culturelle et politique, les principes politiques qui la fondent doivent nous amener à accepter que l'égalité politique est au cœur de notre identité nationale, doit nous amener à revoir en profondeur certaines normes culturelles qui nous paraissent évidentes parce que, pour des raisons historiques, pour des raisons d'habitude, de routine sociale, nous considérons qu'être français, c'est globalement être comme ci ou comme ça.
Et vous l'avez dit vous-même, être français, c'est être républicain et accorder de l'importance à la valeur de l'égalité.
Oui, mais ça a des effets culturels et ça a des effets pour le vécu personnel, justement.
Alain Finkielkraut.
Que dire ? Que vous dire ? Être français, dites-vous, c'est être républicain. Non. La France n'est pas née en 1789. Personne ne peut dire une chose pareille, et surtout pas les républicains de la Troisième République, ceux qui ont fondé l'école républicaine. Ceux-là ne partageaient pas, ils chérissaient la Révolution, mais il ne partageait pas la mystique de la table rase. Jules Ferry était un héritier. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont fondé l'école républicaine. Une école qui assumait tout l'héritage. Ils pensaient que le petit écolier, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit, pouvait participer à l'aventure collective, parce qu'il était grandi de tout ce qu'il avait précédé. En outre, l'identité, ça ne peut pas être seulement des valeurs, aussi nobles soient-elles. Les valeurs sont des non-choses. Et si vous voulez, il ne faut pas oublier les choses tangibles.
Des non-choses, comment écrivez-vous de non-choses ?
Ce ne sont pas des choses, ce sont des valeurs. Nous sommes dans le ciel des principes. Redescendons un peu sur terre. La France, ce sont des monuments, ce sont des places dans les villes, ce sont des cafés, puisque c'est les cafés, justement, l'ennemi radical a voulu les attaquer. La France, ce sont des paysages. La France, ce sont des villes et des villages, ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres qui ont contribué à façonner la France. Et ce que l'école fait, c'est précisément d'enseigner ces œuvres à tous ceux qui vivent sur le territoire français, français de souche ou français de fraise d'Ast. Et c'est ce qui a permis à Emmanuel Lévinas, qui était aussi un émigré, que je sache, puisqu'il venait de Covenot, de dire que la France est un pays auquel on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit, autant que par les racines. Et il ne demandait pas à la France, quand il a suivi les cours à l'université de Strasbourg, qu'elle reconnaisse son histoire. Il a appris ce que c'était que la philosophie, et il a appris l'histoire de France en France. Et je voudrais dire aussi, pour mettre définitivement les pieds dans le plat, qu'il est paru en 2002 un livre, « Les territoires perdus de la République ». Et dans ce livre-là, il n'était pas question. Ce qui était révélé, c'était la misogynie, l'antisémitisme et la francophobie qui sévissaient dans un certain nombre de quartiers.
et ce qu'on lit aussi dans un certain nombre de rapports de l'éducation nationale, c'est que des élèves contestent les cours, refusent qu'on leur parle des cathédrales, des religions préislamiques en Égypte, de l'origine sumérienne de l'écriture. Et cela, en effet, pose de plus en plus de problèmes à un certain nombre de professeurs. Que faire, justement, dans notre France d'aujourd'hui avec la montée massive de la francophobie? Qui nous fera croire que cette haine-là est une réponse à la xénophobie, à l'islamophobie qui sévit en France? Je crois que ce n'est pas vrai. C'est un phénomène d'une toute autre ampleur et je ne crois pas qu'on le résoudra à coup, si vous voulez, de repentance et avec un enseignement qui ferait de plus en plus de place à l'immigration. Faire de la place aux immigrés en France, c'est leur faire bénéficier de l'enseignement de cette culture et de cette histoire qui doit, par principe, s'ouvrir à tous. Voilà, je crois, la seule manière de restaurer, de rétablir en France quelque chose comme une amitié française.
Je crois que Thierry Leger veut vous répondre.
Oui, j'avais... premier point sur lequel je souhaitais revenir et qui vraiment permet de retourner, en tout cas sur les origines de ce débat. On parlait tout à l'heure de déchéance de nationalité. J'aimerais simplement rappeler un fait, puisque vous parliez à l'instant de Troisième République, que l'idée même d'un papier d'identité, d'une pièce d'identité, au départ n'était pas du tout imposée aux Français, mais imposée aux étrangers vivant en France, justement pour qu'on puisse les reconnaître et les exclure. Et quand vous parliez justement de cette école ouverte à tous en France, sauf à ceux qui avaient justement ces papiers, il ne faudrait pas non plus oublier ce passage. Et nous dire qu'il ne faudrait pas faire de place à l'immigration dans l'enseignement aujourd'hui en France, je ne vois absolument pas pourquoi, puisque cela fait partie de l'histoire de France, tout simplement.
Sophie Gara de la Tour, et puis on laissera Alain Finkielkraut répondre.
Et pour compléter ce que vous venez de dire, j'ajouterais qu'il ne faut certainement pas croire que l'école pourra résoudre tous les maux de la société française à l'heure actuelle et que l'identité française, comme je le disais tout à l'heure, passe essentiellement aussi par l'égalité juridique et politique. Et qu'à ce titre, au-delà de la révision et de la pluralisation de notre symbolique nationale, ce qu'il convient aussi d'affronter, c'est ces problèmes d'inégalité, d'injustice. Je veux dire, si la justice, comme le disait Durkheim, est la dernière foi commune des peuples modernes, c'est aussi le déni de justice, le sentiment d'injustice quand on ne se sent pas reconnu, quand on se sent discriminé, et il y a suffisamment de faits quand même qui l'attestent, c'est ce déni de justice qui peut aussi expliquer qu'il y ait des phénomènes de marginalisation sociale, de ghettoisation, qui font que tous les maux qu'observent les professeurs dans certains quartiers difficiles ont des racines sociales profondes qui tiennent peut-être justement au fait que le régime républicain n'est pas à la hauteur de ses promesses. Avec, Durkheim le disait bien, je veux dire, cette solidarité organique, elle doit garantir aux individus la possibilité d'exprimer, il disait en ces termes, la force sociale qui est en eux, c'est-à-dire leur autonomie, leur personnalité. Et il ne faut pas que des anciens préjugés relatifs à l'ancienne forme de solidarité, mécanique par similitude, donc des préjugés qui les ramèneraient à leurs origines, les empêchent de bénéficier de l'accès à la place qui devrait être légitimement la leur dans ce nouveau corps social. Donc tout ce qui empêche l'égalité des chances, toutes les formes de discrimination, de préjugés qui empêchent l'égalité des chances de se réaliser, sont des choses qui minent, comme le disait Durkheim, l'âme de la nation. Et c'est, à mon avis, ces injustices, quand elles ne sont pas réglées politiquement, qui vont générer des pathologies sociales. Alors, un dernier point, c'est peut-être sur la laïcité, juste.
Chaque série d'applaudissements vous accorde des points, donc c'est bien, vous êtes tous à égalité.
Je ne sais pas s'il y a un applaudimètre quelque part, mais...
Bon, il nous reste 3 minutes, et vous êtes 3, donc... Thierry Leger, vous dire quelque chose avant qu'on...
Oui, je voulais simplement dire une chose. On parlait donc à l'instant de l'enseignement ou pas de l'histoire de l'immigration. Voilà, pour l'avoir enseigné, justement, à travers ces manifestations culturelles et artistiques, je tiens quand même à souligner que je n'ai jamais autant senti chez certains étudiants, et en particulier ceux issus de l'immigration, de deuxième ou de troisième génération, un tel intérêt pour l'histoire de la culture française que lorsqu'on leur parle de cette culture-là de manière décomplexée. Donc il me semble plus qu'utile de l'intégrer.
Alain Finkielkraut, il vous reste 2 minutes pour répondre. si vous le souhaitez.
Non, je ne souhaite pas vraiment répondre. Je pense que c'est un sociologue, Hugues Lagrange, qui parlait du déni des cultures. Et je crois qu'une partie de la gauche croit que la question du choc des cultures est soluble dans la question sociale. Je pense qu'elle se trompe, que les faits ne cessent de la démentir, et plus elle est démentie par les faits, plus elle a tendance à se raidir et surtout à incriminer les messagers des mauvaises nouvelles idéologiques dont le nom figure sur les listes noires dressées depuis quelque temps des néo-réacs et même pire. Je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'une partie de la gauche veut aujourd'hui essayer de regarder la réalité en face, c'est-à-dire de combattre le racisme là où il est vraiment, et en même temps de combattre toutes les formes de racisme. Et je pense que j'ai été, là encore, puisque je suis enfant d'immigrés, un bénéficiaire de la politique d'assimilation. On ne m'a jamais demandé de sacrifier mon identité juive. J'ai bénéficié d'une assimilation qui n'était pas normative, mais nutritive. J'ai pu assimiler une partie de la culture française, une culture qui s'est constituée autour de la langue, dans l'association si spécifiquement française de la littérature et de la langue. Et je crois que ce combat pour l'égalité, il devrait consister précisément à préserver cette culture, à la maintenir et à essayer de la transmettre à tous, quelle que soit son origine.
Merci à vous, merci à tous les trois. Thierry Loger, Sophie Gérard de la Tour et Alain Finkielkraut. Nous avons quelques minutes à notre disposition pour vous donner la parole. Et d'ailleurs, quand la lumière sera allumée, vous êtes beaucoup plus nombreux que quand elle s'est éteinte. C'est plutôt bon signe.
Bonjour. Une question très brève adressée à M. Finkielkraut. Pensez-vous plus légitime de penser les choses en termes de droit d'asile ou d'une obligation que l'on se crée soi-même à l'égard du plus démuni ?
Vous avez raison de poser la question en ces termes. Droit d'asile il y a, c'est parce que les pays européens, après les terribles expériences de la Deuxième Guerre mondiale, ont considéré qu'une obligation pesait sur eux et qu'ils devaient l'honorer. Et il serait extrêmement grave, face à la crise des réfugiés, de revenir sur cette obligation. Certains peuvent être tentés par cette solution radicale et il faut évidemment résister à cette tentation. Alors, cependant, Max Weber l'a dit, la morale de conviction ne suffit pas à la morale. La morale des responsabilités, c'est le souci des conséquences. Et il n'est pas sûr que l'Allemagne de Mme Merkel se soit vraiment montrée soucieuse des conséquences de cette obligation qui pesait sur ce pays plus que sur tout autre. Et je crois que face à une crise comme celle que nous vivons, la réponse devrait être mondiale. C'est une conférence mondiale autour de la question des réfugiés qui devrait se tenir de façon que chacun, et notamment les pays du Golfe, richissimes et qui ne connaissent pas le droit d'asile, ni aucune obligation d'aucune sorte, y prennent sa part. Mais cela nous entraînerait dans un tout autre débat. Simplement, vous avez raison de penser le droit d'asile en termes d'obligation morale.
On a beaucoup parlé d'histoire et de sociologie, et je me posais la question de comment on pouvait penser philosophiquement ce problème de l'identité générale, de l'identité nationale, je veux dire, en général. Et je voulais citer une citation qu'on trouve dans un livre de M. Finkielkraut, mais une citation de Goethe, qui dit « Les idées générales et la grande présomption sont toujours en train de déchaîner d'affreux malheurs. » Et je me demandais si l'idée d'identité nationale n'était pas l'une de ces idées générales, justement.
Alors, merci. Peut-être sur les enjeux philosophiques de la réflexion sur l'identité nationale, Sophie Garrard de la Tour, vous voulez répondre ?
J'ai peur de vous décevoir à nouveau. Disons qu'il me semble que sur ces questions... vous décevoir dans la mesure où je pense que sur ces questions d'identité nationale, la nation étant une réalité politique et culturelle, on peut difficilement avoir une approche strictement philosophique sans se nourrir justement des sciences qui nous donnent des informations, qui nous éclairent empiriquement sur ce que c'est que de s'identifier à une nation. Donc c'est la raison pour laquelle je trouve qu'une approche purement spéculative de la question de l'identité, savoir quand, où s'arrête notre identité, le principe de continuité, qu'est-ce qui fait qu'il y a une continuité ou pas, je ne suis pas sûre que ça éclaire fondamentalement les questions qui nous retiennent ici. Alors, c'est un parti pris méthodologique, sans doute, mais c'est pour ça que je...
Est-ce que Thierry Leger voulait répondre à Alain Finkielkraut?
Oui. Je ne suis pas philosophe, donc je vais vous demander une réponse philosophique, mais malgré tout, je vais essayer de vous faire une réponse autre qui m'intéresse tout à fait. Celle qui est que, selon moi, en tout cas en histoire de l'art, qui est mon domaine, une identité nationale, quoi qu'il en soit, n'existe que quand il y a d'autres idées nationales. C'est-à-dire quand il y a une confrontation et souvent quand il y a un ennemi à combattre de manière commune, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'identité nationale quand on la rapproche d'une autre et quand on cherche à montrer les différences qui permettent d'unifier. De manière globale, je ne pense pas que ce soit une grande idée générale. Je pense que l'identité nationale est une œuvre au même titre qu'une œuvre artistique peut en être une œuvre politique. On dit souvent, et c'est vraiment les propos du 19e siècle justement sur ces questions-là, qu'aucun artiste ne peut échapper à la philosophie de son temps et à la politique de son temps. Je pense que là, on peut trouver dans chacune des œuvres qui constituent en tout cas une école nationale, la politique qui est celle, en tout cas, du gouvernement qui l'a fait naître, en tout cas en termes sociologiques et philosophiques, je pense.
Merci. Alain Finkielkraut.
Je ne crois pas que l'identité, sous quelque forme qu'on prenne cette notion, soit une idée générale. Nous sommes français, que nous le voulions ou non, par la langue que nous parlons. Je crois que c'est Régis Debray qui écrivait de la nation, qu'elle fait partie de ces infortunes providentielles qui empêche les hommes de se prendre pour des dieux. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes de quelque part, et nous parlons dans une langue. Donc au contraire, l'identité nationale nous force à une certaine modestie, et elle nous fait quitter le ciel des idées. Quitte à parler une langue, autant la parler bien, avec le maximum de subtilité et de nuance, et je crois que c'est précisément le rôle de l'école.
Merci à vous. Merci à tous. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de la diffusion de nos débats enregistrés samedi 30 janvier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Pour ce 4e débat animé par Géraldine Mosna-Savoie, vous retrouverez les philosophes Bruno Bernardi, Roselyne Lettron et Michael Fossel qui viendront débattre autour d'une question: la sécurité est-elle la condition de la liberté ?